Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec, comme on dit dans ce capin, les buteurs, les coquins, les marauds, les pandards, les fripons de la critique. J'ai nommé Fabienne Pascaud de Télérama, Armel Lita, Armel Elio du Figaro, Gilles Costaz de Politis, le maraud en chef, Jacques Nerson de l'Obs. On parle ce soir, vous l'avez compris, des fourberies de Scapin, de Tartuffe, mais aussi, c'est pas le même auteur, vous allez vous en rendre compte, de Ramsès II, de Tant qu'il y a de l'amour, de La Nouvelle, de Jean Moulin Évangile, et de fausses notes dans le courrier de la semaine. Eh bien, j'ai gardé quelques lettres. Carmel Lita, le veuille ou non, d'Avignon. Il y avait, tiens, à propos de On aura tout, le feuilleton quotidien citoyen de Christiane Taubira, vous vous en souvenez. Jeannine Rambourg, avignonnaise, je m'insurge contre vos appréciations, mal lues, pas esthétiques, pas du théâtre. Effectivement, ça n'est pas du théâtre, ce sont des lectures citoyennes. Ce n'est pas un spectacle, c'est une agora, et faire participer les jeunes au spectacle vivant, à la lecture des grands textes, était une expérience formidable, où l'ambiance était géniale. À propos de Franck Castorf et son roman de Monsieur de Molière, François Ruiz nous écrivait « Ce n'est pas ne pas aimer le théâtre, comme Armel l'a reproché à Charlotte, que de ne pas apprécier le sempiternel salmigondi hystérique de Castorf, égomane ulcéré de ne plus être propriétaire de droit divin d'un théâtre public. Si Franck Castorf est l'un des meilleurs metteurs en scène de notre temps, alors moi, je suis, nous dit cet auditeur, le roi de Tonga. » Chez Castorf, Monsieur Broudic a admiré une magnifique machine, mais n'a retrouvé le plaisir de l'action et de la parole que lorsque les acteurs venaient jouer en direct à l'avant de la scène. Le vrai théâtre, c'est tout de même la présence palpable des corps des acteurs, le timbre de leur voix, leur postillon, leur odeur, leur humanité, quoi. Et puis quand même, quelques avis d'auditeurs déjà sur des spectacles dont on va parler ce soir. Antoine Blanc, je vous l'annonce, n'a pas aimé le Scapin. Je viens de voir au français Scapin et les Minimoys. Rien ne fait comprendre ce que c'est que l'histoire d'une vengeance dans ce que j'ai vu. Scapin est un voyou comme Jean Valjean. Il faudrait que M. Podalydès fréquente des voyous pour comprendre l'humanité qui les porte. Quant au rire, ils étaient scolaires, comme la mise en scène. Ça sera sûrement un succès dans ce petit monde, mais pas dans celui plus vaste des hommes. En revanche, Philippe Chavernac, contrairement à vous, enfin j'ai lu certains de vos papiers en tout cas, a beaucoup aimé Jean Moulin Évangile. C'est une intéressante fiction historique. Arnaud Denis interprète un Jean Moulin vraiment dans la peau du personnage. On sent le préfet zélé qui s'investit corps et âme pour sauver la nation. Et une mention particulière pour Stéphane Dos qui joue le général de Gaulle moralement et physiquement. Et pour finir, c'est très joli, c'est Camille Ferdinand, je ne sais pas si ça va vous plaire, hein, de Saint-Maur-des-Fossés, qui tient à nous faire part d'une grande nouvelle. Mon fils détient, je pense, le record du plus jeune auditeur de votre émission. Il a un mois et demi. Et la fâcheuse habitude de ne pas beaucoup dormir la nuit. J'écoute donc votre émission en podcast, en le berçant dans mon appartement. Je vous annonce donc que vous êtes les seuls parvenants à l'endormir. Même quand vous vous affrontez, voici une nouvelle fonction du masque et la plume, berceur de nouveau-né. Je ne sais pas si c'est un éloge. Hein. Merci d'être là, ça c'est plus joli, dans les moments les plus durs. Comme dans les plus beaux, vous êtes de fidèles compagnons de ma vie. Voilà, mais l'idée que même que Jacques Nerson puisse faire endormir les nouveau-nés reste pour moi une aberration. Et on commence avec les deux événements de cette rentrée théâtrale. Même si l'auteur n'est pas un perdreau de l'année, je veux parler de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, dont Denis Podalydès monte le Scapin au français, et Michel Faux, le Tartuffe, à la Porte Saint-Martin. Les fourberies de Scapin, donc, à la Comédie Française, et jusqu'au 11 février, donc vous avez le temps, avec Benjamin Laverne, dont Armel, d'ailleurs, a pu apprécier le joli fessier.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Hein ?
Ouais.
On voit pas le derrière de devant, mais on voit le derrière de derrière.
Ouais, ouais. Le derrière de devant, ça l'embarrasse.
Non, ça, on ne le voit pas, ça.
Non, mais on voit qu'il est mal à l'aise, ce pauvre garçon.
Oui, mais vous avez apprécié, il est joli, il est bien fait.
Je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il est mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ?
Ben, je le sens, ça se sent.
On
est là pour sentir un acteur.
On sent mal à l'aise tout de suite.
Devinez un acteur. Ben oui.
C'est vous qui étiez mal à l'aise, et c'est votre droit le plus strict. Mais
pas du tout, j'avais déjà fait son éloge au début de la.
Mais vous n'en savez rien.
Au début septembre, parce que je savais que c'était un très grand. D'ailleurs, il est dans le film.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Formidable, un jeune marié, imbuvable.
On en a parlé la semaine dernière,
ouais, je sais.
À propos du film de Nakash et Toledano. Donc, je le disais, Laverne, à poil, mais juste au début de la pièce, hein, Didier Sandre en Géronte, bien amoché à la fin de la pièce.
Ouais,
très amoché.
Pourquoi le pauvre ? C'est du ketchup, c'est ce que vous voulez. Vous n'allez pas plaindre un acteur qui fait semblant de
s'aimer. Moi, j'aimerais mieux qu'il soit dans le sac et qu'on lui donne des coups.
Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de mon résumé ?
Pardon.
Dans le principe, c'est que je résume. Et après, vous dites vos bêtises. Gilles David, c'est Argante. Bakary Sangaré, Sylvestre. Adeline Dermy en Zerbinette. Julien Frison en Octave. Gaëlle Caminadi en Léandre. Et Claire de la Rue du Camp ou Pauline Clément, parce que je crois qu'il y a une alternance, en Hyacinthe, dans un décor qui est censé représenter le fond d'une cale dans le port de Naples, avec un grand échafaudage, que d'ailleurs les comédiens ont parfois du mal à descendre ou à monter. Donc Denis Podalydès a fait le choix, au moins c'est clair, de la farce, avec en clou du spectacle la scène du sac, assez interminable, où Géronte se fait bastonner et où là, pour le coup, mais je crois que c'est la volonté de Podalydès, on frôle le grand guignol, avec un scapin, Laverne, qui, c'est vrai, j'étais assis à côté de Gilles, donc il peut en témoigner, livre un véritable exploit physique. Le soir où je l'ai vu, c'est vrai, les gens étaient assez en extase, en tout cas au moment des applaudissements. Il est vrai que l'outrance plaît toujours beaucoup. Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Genre, qu'allait-il faire dans cette galère ? Qu'allait-il faire à cette galère ? Il y a une raison
Non, parce que j'ai même vérifié. Moi, je me suis dit, je suis sotte et je ne connais pas la version exacte. Mais...
Qu'allait-il faire à cette galère ?
C'est peut-être la vraie version de Cyrano de Bergerac que Molière est censé avoir pillé.
Peut-être.
Non, parce que moi, je suis comme Armel.
Non, mais Fabienne a peut-être raison. Oui, ça doit être aussi sophistiqué que ça.
C'est un point de détail. C'est vrai que, voilà. Mais je sais que certains d'entre vous ont aimé ce grand guignol-là.
Je ne dirais pas grand guignol, je dirais guignol. Et ce n'est pas du tout la même chose. Grand guignol, c'est fait pour provoquer l'effroi. Guignol, c'est pour provoquer les rires. Et c'est exactement ce que réussit Denis Podalydès. Les fourberies de Scapin, c'est une farce. Et là, c'est joué effectivement en farce. Ça ne veut pas dire bêtement.
Pourquoi c'est pas une farce, ça peut
c'est
être...
une farce.
Mais
c'est
non,
pas,
c'est
mais pas, non, pas, pas forcément.
Pourquoi je suis désolé, mais quand on fait rire justement en mettant quelqu'un dans un sac et en tapant dessus, c'est exactement
ça, c'est justement là,
c'est Guignol et le commissaire, sac. C'est Arlequin avec sa batte, c'est précisément le principe même de la farce. Et ça marche très bien. La salle, vous l'avez noté effectivement, rit, mais elle ne rit jamais bêtement. Et c'est Molière qui l'a fait rire. Elle rit du texte de Molière parce qu'il est admirablement dit. Et puis il y a cet acteur mais éblouissant, c'est une révélation. Et je sais qu'il est depuis 5 ans à la Comédie Française, mais jusqu'ici il n'avait pas trouvé un rôle qui lui permette de donner toute la mesure de son talent. Il est gay, il est drôle, il est spirituel. C'est Guignol, il est malin. On a une folle sympathie pour lui.
Est-ce qu'il fallait que tout soit à ce point outré du début à la fin ?
Mais ça ne va pas se jouer dans la nuance. Pour Ben Scapin, c'est pas du Tchekhov.
Souvenez-vous de
la pièce est plus subtile
de Daniel Auteuil,
la
Cour d'honneur.
Daniel Auteuil, c'était pas extrêmement raffiné non plus. Heureusement, il y avait des scènes de farce, notamment avec le Géronte qu'il avait, qui était très bien. Mais celui de Toretton dont vous parlez, eh bien, je suis désolé, mais c'était un Scapin qui ne faisait pas rire. Et moi, c'est un gros reproche quand même. Quand on a une farce et qu'on l'assombrit au point d'en enlever le rire, je pense que c'est un excès.
Donc pour vous, si je vous ai bien lu, c'est le plus grand scapin
que vous avez... Moi, c'est le meilleur scapin que je crois
de
que
votre
j'ai
vie.
Vu. Et j'en ai vu, effectivement, déjà des bons, mais celui-là, cet acteur, est éblouissant. C'est une révélation comme, je pense, Hirsch a pu l'être à son époque.
Fabienne.
Pour moi, la pièce, elle est maltraitée parce qu'elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus ambiguë que ça. D'abord, c'est une pièce que Molière écrit 2 ans avant de mourir, en 1671. Il est fatigué, hein.
Et on lui a reproché. Vous n'en savez rien, ça c'est la théorie de Podalides, mais personne ne sait
que tout le monde a écrit.
Elle a raison, là. Vous avez l'air en pleine forme, Jacques. Bon.
Ce qu'on sait, c'est que Scapin est un repris de justice, que c'est quelqu'un d'amer, d'un peu cynique, qui est triste, qui est mélancolique.
D'ailleurs, il annonce
le Figaro de Beaumarchais dans sa violence contre les barbons, les riches barbons, dans sa violence sociale. Et là,
il en veut à ses patrons parce qu'ils sont avares, mais il leur en veut pas parce qu'ils sont ses patrons. Il n'y a pas encore de revendication sociale chez Scapin, c'est pas vrai.
Il leur en veut parce que ce sont des bourgeois et
les fils de ses patrons sont aussi bourgeois que les patrons, que leur
père. Il les prend pas pour des imbéciles, il les aide très gentiment. Il est beaucoup plus malin qu'eux. Je suis d'accord qu'il y a de la farce. Je suis d'accord avec l'aspect farce, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça tout au long de la pièce.
Non, il y a une grande cruauté dans la scène du sein.
Jacques, est-ce que Fabienne peut aller jusqu'au bout de son développement?
Et en plus, la mise en scène, les acteurs jouent toujours au milieu, à l'avant-scène, ils crient, ils gueulent, c'est forcé. Même la délicieuse Zerbinette, de fou rire, c'est interminable.
Là, je vous rejoins parce que j'aime pas beaucoup Adeline Dermy, mais bon.
Et le décor d'Éric Ruff, qui fait d'ailleurs un peu trop de décor à la Comédie française,
je trouve ça très bien.
C'est un échafaudage qui ne sert à rien.
Et la toile de fond derrière avec les
bateaux, c'est magnifique. Ils n'arrivent même pas à descendre leur échafaudage.
Mais non, ils font une pauvre gymnastique. Non, franchement, je trouve... Alors, moi aussi, j'ai assisté au délire du public, et c'est bien si le public s'amuse. C'est vrai que Benjamin Laverne est très bien, mais il joue trop sur une seule note. Et pour moi, la pièce est beaucoup plus riche que ça.
Armelita.
Je suis tout à fait d'accord avec Fabienne Pascoe. Moi, j'ai été vraiment déçue parce que ce sont de très bons acteurs, mais ils sont dirigés d'une façon qui me paraît trop rigide, trop sur une seule note. Zerbinette est très hystérisée, alors que c'est pas ça du tout Zerbinette. Et puis alors moi je n'aime pas du tout la scène du sac.
Les deux vieillards sont très bien, mais ils sont très bien.
Et même Bakary Sangaré a fait des progrès d'élocution remarquables. Et Gilles David et Didier Sand, ils sont formidables.
Mais je n'aime pas du tout
cette sophistication inutile du sac qui n'est pas. C'est-à-dire
qu'elle est trop longue.
Je vous le dis pas, mais Géronte n'est pas dans le sac.
Oh, mais ça, c'est pas bien de le dire,
Si, ils s'en apercevront.
Mais pas du tout. On a l'impression qu'il est dans le sac.
Non, on n'a pas du tout l'impression. Ils ont fabriqué une machine.
Ça ne sert à rien.
Vous qui reprochez le côté farce, là, tout à coup, il y a quelque chose de tragique. C'est qu'on voit que derrière la farce, il y a un homme qui est vraiment blessé.
Non, c'est pas bâclé du tout,
s'il vous plaît. S'il vous plaît.
La seule chose vraiment intéressante et qu'on voit très bien, c'est que Scapin se conduit en metteur en scène des jeunes qu'il prend pour des jeunes un peu faibles. Et il manipule tout le monde. Et ça, c'est très bien. Mais il est beaucoup plus compliqué que ça, selon moi, Scapin. Oui. En tout cas, l'acteur est
compliqué,
formidable.
Scapin, non.
Si, refuse tout.
Je suis d'accord sur le fait que Jacques Nerson n'a rien compris. c'est sûr que c'est une mise en scène extrêmement appuyée, extrêmement préméditée. Justement, si on fait de la farce, il faut qu'il y ait une liberté de la farce. Elle n'y est pas, là. C'est serré, c'est tenu, et c'est très allongé, là. La scène du sac est dure des plombs.
C'est
incroyable. Et puis alors, c'est vrai que Benjamin Laverne est un acteur remarquable.
Scapin,
contente-moi à ce que dit encore une fois Nerson, qui vraiment a accumulé les erreurs de jugement sur ce spectacle.
On va le mettre dans un sac un de ces jours.
C'est que Scapin, c'est quand même la revanche du peuple. Scapin, il doit sortir du peuple, il doit être l'homme pauvre qui se paye la tête des riches. Et là, ça apparaît absolument pas dans l'interprétation de Laverne.
Ah bon, on le prend pour un riche?
On le prend pour un gandin, voilà.
C'est ridicule.
Il le fait très bien, peut-être un peu trop, d'ailleurs, parce qu'il est quand même un peu...
C'est ridicule. Un peu envahissant, sans être vraiment d'un des meilleurs spectacles de la comédie française depuis longtemps.
Non, mais je pense que le côté social, le côté de la farce, c'est toujours social. C'est pas que ça soit sous Plaute ou sous Molière. La farce, c'est social. C'est souvent la revanche du peuple et des pauvres contre les riches. Il y a ça dans ce cas-là.
Il y a ça dans le spectacle qu'on voit.
Malheureusement, c'est très maltraité par Podalydès. Et cela dit, c'est vrai que la grande chose de la soirée, c'est Didier Sand, qui apporte au personnage de Géronte quelque chose qui n'y est pas, mais qui est bouleversant, c'est la souffrance humaine. Et là, ce que fait Didier Sand est vraiment mémorable.
Oui, souffrance humaine et souffrance physique, parce qu'à la fin, quand il salue même, on a envie de le prendre dans ses bras, tellement il est abîmé de partout.
Il doit être blessé.
Il a des protections. Enfin, écoutez, c'est pas à chaque fois qu'on voit un acteur.
Il nous prend pour des imbéciles, Jérôme.
Non, mais je comprends pas. Il est convaincu d'avoir vu le Scapin du siècle, pour ne pas dire des siècles.
Mais j'ai l'impression qu'on va poursuivre les acteurs qui jouent les méchants avec des boîtes de conserve ou des tomates pour se venger.
Jacques, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on n'ait pas follement aimé ce Scapin-là?
Je comprends mal parce que c'est vraiment un grand spectacle populaire.
Il a une idée, Podalydès, dans le spectacle, c'est que Scapin est le roi des acteurs. Et il file la métaphore.
Je crois qu'il en a plus d'une et je crois que le succès du spectacle ne vient pas de rien. C'est un vrai, très bon spectacle populaire.
Parce que c'est des numéros.
Et la comédie française fait vraiment son travail, là, magnifiquement.
Ce sont donc les Fourberies de Scapin, c'est à la comédie française. Et vous avez jusqu'au 11 février pour aller l'apprécier ou au contraire le désapprécier. L'autre Molière de la saison... c'est le Tartuffe, mis en scène par Michel Faux, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Là, c'est jusqu'au 31 décembre, avec Michel Faux dans l'habit du Faux dévot. Michel Bouquet, qui joue donc un orgon nonagénaire. Je crois que c'est le premier orgon nonagénaire que je vois dans ma vie. Sa femme Juliette Carré, qui joue sa mère, Madame Pernel. Bonjour Madame Dolto. Nicole Calfan, qui est Elmire, Christine Murillo, Dorine, Justine Bachelet et Marianne, d'autres encore, tout ce beau monde ultra maquillé, habillé, quand même Christian Lacroix, dans un décor, alors je ne sais pas si c'est tantôt pour moi très baroque, tantôt très Walt Disney, c'est un peu entre les deux. La pièce repose entièrement, vous le savez, sur la tyrannie aveugle, et pour tout dire un peu stupide, que fait peser Orgon sur sa maisonnée, donc je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous poser la question, est-ce que le grand Michel Bouquet fait l'affaire, quoi qu'on pense de lui, dans ce rôle, où on devrait terroriser Gilles.
Oui, il est bien Michel Bouquet. Moi, je l'ai vu très tardivement.
C'est pas la question que je pose.
Oui. Non, mais je pense effectivement, il est un orgon brisé, un orgon qui n'est pas très combatif, qui est cassé comme ça dès le début, et c'est assez intéressant. C'est un très curieux spectacle, très inégal. Oui, dans un décor d'église baroque, où tellement fermé que les gens sont
plus
statiques.
Plus riche que celui de Scapin. Hein.
Oui,
il y a une espèce
d'hommage au baroque, au rococo, à un style effervescent qui gêne un peu la circulation des acteurs. Et c'est vrai que la pièce est quand même très longue à démarrer. À cause de ça, tout le monde est dans des espèces de confessionnaux. Ils sont tous un peu bloqués. Et s'il n'y avait pas Christine Murillo au départ, je veux dire que la pièce serait très lente, parce que les acteurs ne sont pas tous très bons. Il y a quand même les rôles des jeunes sont quand même tenus par des acteurs qui gagneraient à travailler davantage. Et puis apparaît Michel Faux qui... une espèce de cardinal de Richelieu, dans une espèce de robe rouge et écarlate, pourpre, qui est assez incroyable. Il en fait beaucoup, comme toujours, mais il donne quand même la dynamique qui manquait. Et donc, c'est un spectacle qui boite, mais qui, moi, j'ai quand même trouvé très plaisant.
Vous donnez très envie aux gens d'y aller, Jacques.
Eh bien, je crois qu'il faut dire la vérité, moi. Je crois que Michel Bouquet, quel que soit le respect qu'on a pour lui, et il est vraiment très grand, ça a été un très grand acteur, c'est peut-être encore un très grand acteur, mais il est évident qu'on ne peut pas jouer Orgon à 90 ans. Orgon est un tyran, vous l'avez dit, et c'est quelqu'un qui fait peur, qui doit faire peur, qui fait trembler toute la maison. Je vous assure que quand c'était Guy Tréjean, quand c'était Guy Tréjean qui jouait dans la mise en scène de Planchon, la dernière version, mais on avait véritablement peur à son entrée.
Là, je vais être un peu méchant, mais on a plutôt peur pour lui.
Mais voilà, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Pendant tout le spectacle, on a peur pour lui. Il est tellement fragile, et on ne comprend pas du coup que tout le monde ait peur de lui. Or, c'est le moteur de la pièce. Donc, on peut pas. Ça me paraît, malheureusement, j'aime pas l'expression. Elle est un peu usée, le combat de trop. Mais ça me paraît évident que, en tout cas, il fallait pas qu'il accepte ce rôle-là. Il l'avait jamais joué. Il avait joué Tartuffe un petit peu pour, le, je crois, pour la télévision.
Vous vous souvenez de Tartuffe qui avait monté la dernière de Bondy?
Oui.
Qui était formidable. Là, on avait vraiment le sentiment. Je ne sais plus qui jouait Orgon. C'était.
Dans la première version, c'était Gilles Cohen, et dans la deuxième version, c'était Samuel Labarthe.
C'était Labarthe que j'ai. Oui, c'est ça. Mais là, on avait peur.
Oui. Mais il faut vraiment avoir peur. Enfin, il y a une question d'autorité. Il n'a plus l'autorité. Enfin, bon, il y a un moment.
Oui, mais Jacques, vous référez au public tout le temps. Le public, il est debout à applaudir Michel Bouquet. Donc, c'est pas vrai ce que vous dites.
C'est un vieil homme, il est debout aussi au PSG.
C'est pas un argument.
Non, ça peut être un argument. Et puis, en plus, sur ce Scapin, Jacques nous a expliqué que le public était heureux. Donc, il est heureux aussi là. Donc, tenons compte, plus ou moins, mais quand même, le public est.
Je crois tout simplement que vous êtes pétrifié par le respect, comme beaucoup de gens, et que vous n'osez pas vous avouer que Michel Bouquet n'est pas bon là-dedans. Puis voilà, c'est tout. C'est malheureux, mais c'est comme
vous
ça.
Vous l'avez sans doute vu trop tôt.
Christine Murillo est très bien.
J'ai vu hier le spectacle, et donc il a évolué.
Non, c'est ça. Il a probablement rajeuni. Bouquet rajeuni.
Il a besoin de s'adapter à la scène.
C'est
ce qu'il a fait.
C'est ça qui est terrible. C'est qu'il n'a plus sa voix.
Il n'a pas la voix, il n'a pas le souffle, absolument.
Le timbre et le rythme, le débit est ralenti.
Très bien, j'ai pas de problème.
Donc ça ralentit la scène. Non, c'est vrai que c'est pour ceux qui l'aiment, c'est un peu douloureux cette expérience. Et moi, ce qui m'a troublée, c'est qu'encore une fois, la pièce, elle est pas montée, quoi. Quand on pense que Tartuffe, ça s'est attiré la censure de Louis XIV, du Parti des Vosges. C'est une pièce d'un courage énorme où Molière ose affronter le pouvoir de l'Église de l'époque, ose dire des choses d'une audace folle. Là, il en fait un numéro baroque où tout le monde se pavane dans des costumes grandioses, vient proférer encore une fois, comme Podalydès, à l'avant-scène, sans qu'il y ait aucune mise en scène. Les acteurs sont au milieu du plateau et gueulent et parlent, maquillés, outrageusement. Même Michel Bouquet, le pauvre, il a ses pauvres yeux enfoncés dans des orbites noires avec une pauvre petite moustache. C'est terrible, c'est pathétique. Donc de la pièce, il reste pas grand-chose. Et surtout de la rencontre qu'on nous a vendue entre ces deux monstres sacrés, Michel Faux et Michel Bouquet, le vieux maître du conservatoire et le jeune homme
excentrique. Qui a été aussi le maître de Podalydès. Hein.
Exactement, il ne joue pas la même pièce. Michel Faux, il joue Don Juan. Il se pavane dans son costume de cardinal en soie rouge. Alors c'est vrai que Tartuffe annonce Don Juan et va devenir sans doute Don Juan, même dans la tête de Molière. Mais c'est pas la pièce, quoi. C'est pas la pièce. Il ne joue pas la même chose. Il ne se rencontre pas. Il n'arrive pas à jouer l'un avec l'autre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus terrible.
Armelle.
Ce que dit Fabienne n'est pas faux. Mais je pense que, non, mais sans rire, c'est
merci
que le vrai
Armelle.
Problème. Non, mais que le vrai problème, c'est ça, c'est que on a l'impression qu'il n'y a jamais de scène entre eux. Or, il y en a, mais elles n'ont pas lieu littéralement, parce que moi, ça m'a même fait penser aux autosacramentales de un peu du baroque précoce espagnol, où les personnages sont face à vous, parlent comme s'ils étaient des allégories. Faux, il fait le cardinal qui annonce Don Juan, mais il fait aussi le diable. À un moment, c'est très clair. À un moment, il a même les cheveux comme ça, comme des petites cornes. Bon, et alors, moi, je dois dire que je pense que Michel Bouquet n'est pas le même tous les soirs parce que, effectivement, à son âge, il doit y avoir des jours où il est fatigué. Moi, le soir où je l'ai vu,
mais la scène
tout en
la
étant
Armelle, bah oui, il est assis.
On est obligé d'inventer un meuble spécial pour que Michel Bouquet ne se mette pas à quatre pattes.
Il est dans une église, c'est l'hôtel.
Enfin, écoutez, la scène de la table, si Orgon n'est pas sous la table, cette scène ne veut plus rien dire. Et les autres acteurs, on ne voit que le torse.
Moi, je dois,
là-haut,
je
on a l'impression de regarder la télévision.
D'une chose, le soir où je l'ai vu, par exemple, quand il chasse Damis, eh ben, je vous jure qu'il faisait peur, cet Orgon-là. Mais je vous le jure. C'est-à-dire que.
Ne jurez
mais
pas, si, Marie-Thérèse.
Mais c'est vrai. Bouquet, il n'est pas. Mais il est. 92 ans, peut-être, oui. on tient pas sur les deux heures, oui. mais je vous assure que face au petit jeune, là, il était tout d'un coup glaçant, comme il a pu être dans les films qu'on connaît si bien, de Chabrol et tout ça, où mine de rien, ah, Armel, il terrorise. Vous,
quand il se met vraiment en colère, on a peur pour lui. On a peur qu'il n'aille pas au bout de sa tirade, pas au bout de la représentation.
Là, non, c'est un peu quand même.
Moi, je pense que c'est pas tous les soirs le même spectacle.
Bon, eh ben, c'est le Tartuffe.
Et Dorine, c'est le plus beau rôle de la, du répertoire Murillo. Français, donc elle Murillo, est formidable, ça c'est clair.
Le Tartuffe que vous allez peut-être aller voir, c'est Porte Saint-Martin. C'est donc monté par Michel Faux, qui a fait d'ailleurs un Molière un peu dans cet esprit-là.
Le misanthrope.
Voilà, c'était ultra, aussi. Pareil, ultra maquillé, ultra habillé.
Oui. Ce que je voudrais juste ajouter, parce que c'est vraiment formidable. Il y a quelques années, un livre d'entretien, justement, de Fabienne et de Michel Bouquet, de Charles Berling, absolument. Plus tard, et de Michel Bouquet. Et là, il y a un petit livre qui s'appelle « Michel Bouquet raconte Molière oui. ». C'est aux éditions Philippe Ray. Et c'est un petit bijou, ce petit livre. Oh, si mais si
Mais non, il n'y a que des banalités là-dedans.
Mais non, il n'y a pas que des banalités. Il y a des choses pures et simples sur Molière.
Mais non.
Il y a des choses pures et simples sur Molière.
Bah oui, mais à ce moment-là, il vaut mieux lire La Guerre des Michards.
Oh, non. C'est un acteur qui parle.
Ben oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Que Molière n'est pas intellectuel? Bon, d'accord, on le savait. Et alors?
Mais Armel, qui a fait le livre ?
Eh bien, Michel Bouquet, chez cet éditeur.
C'est donc...
Et c'est très intéressant,
chez
je vous
Philippe
assure.
Ray, c'est ça ?
Philippe Ray, ça coûte 16 euros, et je vous assure, c'est un petit bijou.
Vous n'allez pas nous donner en plus l'ISBN. Jean Moulin, Évangile, sous-titré « Fiction historique », la nouvelle pièce de l'auteur de Villa Luco, Jean-Marie Besset. Mise en scène par Régis de Martrin-Donos, au Théâtre 14, avec Arnaud Denis dans le rôle-titre. On est en juin 40, les Allemands déferle sur une France qui est contrainte à l'exode. Et Jean Moulin, 40 ans, préfet d'Eure-et-Loire à Chartres, est arrêté le 17 juin 1940 par les Allemands. Il a refusé, en effet, d'accuser les tirailleurs sénégalais d'avoir commis de prétendues atrocités sur les civils. Il est torturé, il tente même de se suicider, mais il survit et il va devenir le chef de la résistance qu'on sait. La pièce est en quatre tableaux, invasion, résistance, organisation, passion. Elle raconte aussi l'union historique et visionnaire entre Moulin, crédité d'ailleurs ici de penchant homosexuel, et le général de Gaulle, incarné donc par Stéphane Dos. Chloé Lambert est Laure, la sœur de Jean Moulin. Laurent Charpentier, c'est Henri Freinet. Michael Evans, c'est à la fois Pierre de Bénouville et Klaus Barbie, ce qu'on appelle le grand écart. Même Jean-Marie Besset a un petit rôle dans sa pièce, une pièce disponible, c'est comme ça que je l'ai lu d'ailleurs, à l'avant-scène théâtre, et ça se joue, il faut aller vite, jusqu'au 21 octobre, Armel.
Écoutez, j'ai été très intéressée, moi, par ce spectacle. Alors, il se trouve que j'en avais vu une première version, mise en scène par Jacques Lassalle, avec Maxime Daboville dans le rôle de Jean Moulin, et Philippe Girard dans celui de De Gaulle. C'était il y a 2-3 étés, et ça m'avait intéressée parce que j'avais trouvé...
Oui, mais parlons de celle-là, peut-être.
Non, mais oui, mais c'était le même texte. Oui, c'est le texte qui m'intéresse. Le texte m'a beaucoup intéressée. Je trouve que c'est un bon travail, bien développé. Et ce que j'ai vu au Théâtre 14, je l'ai trouvé à nouveau intéressant, plutôt très bien joué, un petit peu long, un petit peu trop démonstratif, avec trop de, peut-être, d'explications... comme si les personnages ne se suffisaient pas à eux-mêmes. Mais franchement, dans cette rentrée assez médiocre, eh ben, au moins là, on a un propos
la suite
et quelque chose d'intéressant.
C'est assez drôle. Fabienne.
Moi, c'est un spectacle qui m'a prodigieusement agacée parce que je trouve que l'écriture, c'est vrai, ce qu'Armel vient de dire, c'est bien documenté, mais c'est un peu besogneux, ça sent la sueur, quoi, et la dissertation de fin d'études sur Jean Moulin. Et puis surtout, associer Jean Moulin au Christ, c'était un formidable résistant et on lui doit beaucoup, mais il y en a marre, quoi. C'est quand même un peu facile et c'est des assemblages à la mort moelle-neuve. Je suis désolée de la vulgarité de mon expression, mais alors le dernier acte, c'est passion.
Surtout pour ce Jean Moulin-là.
Le dernier acte, c'est passion. La résurrection, c'est l'accueil du public, quoi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'un peu prétentieux et vain dans cette volonté de christique pour Jean Moulin, et puis alors surtout cette fascination qu'a Jean-Marie Besset pour les personnages homosexuels. Molière l'était aussi dans Le Banquet d'Auteuil, qui est loin d'être de sa meilleure pièce, une pièce que j'avais lue et vue et qui n'est vraiment pas terrible. Là, Jean Moulin, on a droit à l'homosexualité, oui, de Jean Moulin. Qu'est-ce que ça...
Très peu. Il en a beaucoup retiré.
Il en a retiré. Il y en avait plus.
Il y a beaucoup de gens qui peuvent même à peine comprendre ce qui se passe.
Bon, moi,
c'est tellement allusif.
Il en a retiré par rapport à quoi, la première version?
Par rapport à la première version, oui, bien sûr. Justement, l'expérience du Banquet d'Auteuil l'a rendu un peu prudent et il a rendu ça beaucoup plus allusif. Mais peut-être même un peu trop, à mon avis.
La caricature de Gaulle par Stéphane Dose, qui prend même la voix de De Gaulle, qui l'imite. Enfin, tout ça est quand même un peu ridicule, un peu scolaire. Alors c'est bourré de bonnes intentions, c'est bien de ressusciter Jean Moulin, mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix, pas comme ça, quoi. J'ai trouvé Arnaud Denis, moi, totalement inexistant dans le rôle.
Jacques ?
Ben, est-ce que moi, l'homosexualité ou pas de Jean Moulin, je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui me gêne profondément, c'est l'absence d'écriture. Et ça m'étonne de la part de Jean-Marie Besset, parce que c'était un garçon qui avait... beaucoup de talent à ses débuts, qui écrivait des pièces assez fortes. Et là, j'ai eu l'impression de voir un spectacle historique monté par Robert Hossein et dont Alain Decaux, vous savez, écrivait des textes comme ça. C'est un cours d'histoire. C'est
ça nous manque
plus
un
du
peu
côté.
Les fresques de Robert Hossein, non? Au palais des sports.
Alors c'est plus petit, mais là c'est un peu ça, c'est des tableaux, c'est presque un peu des tableaux vivants, et à la fin ça devient carrément ridicule, effectivement, avec Jean Moulin prenant des poses comme dans du théâtre des années 20. Enfin, c'est assez bizarre. Oui, il y a l'image d'Épinal. Il y a pas beaucoup de talent là-dedans dans l'écriture. Et un acteur merveilleux comme Arnaud Denis est effectivement relativement pâle. Je pense qu'il n'est pas admirablement dirigé non plus.
Gilles ?
Non, c'est mieux que ça, ce spectacle. Au contraire, je trouve qu'il y a même des scènes très bien écrites, au contraire.
Oui.
Non, ce qui me gêne parfois, c'est cette espèce d'autorité que Jean-Marie Besset s'octroie sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il affirme des choses qui peuvent être discutées. Par exemple, à un moment, l'ami femme de Jean Moulin dit « Ce que je reprocherais à la résistance, c'est que vous n'ayez pas défendu les Juifs ». C'est complètement faux. Les Juifs ont été défendus tout de suite par la résistance. Et donc il y a des choses qui sont approximatives, affirmées de façon assez péremptoire, qui me paraissent pas authentiques, pas vraies. N'empêche que... Non, Arnaud Denis est très bien, l'acteur qui joue De Gaulle est très bon. Mais si De Gaulle a la voix de De Gaulle, c'est quand même pas un reproche, quand même.
Je croirais au Guignol.
C'est quand même sidérant comme observation. Et puis, il y a une espèce d'entrain dans la mise en scène de Régis de Martin Bonos.
Pour la résistance. Ouais,
voilà. Non, moi, c'est un texte qui m'a irrité aussi, mais qui m'a beaucoup intéressé et qui, quand même, m'a appris des choses ici sur Jean Moulin.
Tu savais pas grand chose, alors, parce que franchement, c'est très élémentaire.
Je sais d'autres choses.
Jean Moulin
était un merveilleux dessinateur, par exemple, parce que vous le savez,
c'est une bande dessinée.
On en parle
pour enfants de
peu dans
12
ans. Dans la pièce.
Il avait même une galerie d'art.
Non, je savais des choses, mais j'ai appris des choses.
Eh bien, c'est Jean Moulin, Évangile, c'est signé Jean-Marie Besset, et c'est au théâtre 14, Ramsès II, au Bouffe parisien. C'est pas une pièce sur l'Égypte antique, même si on y trouve d'ailleurs un masque de Pharaon. C'est la nouvelle pièce de Sébastien Thierry, qui, je vous le rappelle, surtout à Armel, avait fait sensation au Molière en défendant de face et à poil le statut des auteurs de théâtre devant la ministre à l'époque, Fleur Pellerin. Oui, parce qu'on a eu Fleur Pellerin comme ministre de la Culture, fan de Modiano. Et donc, c'est elle. C'est comme ça qu'on se souvient beaucoup de Sébastien Thierry.
Oui, hein,
et là, on voyait le derrière de devant, là.
Oui.
Bref, Ramsès II, mise en scène par Stéphane Hillel. C'est avec François Berléand, qui jouait d'ailleurs dans Momo, l'avant-dernière pièce de Sébastien Thierry. Éric Elmosnino, Evelyne Buil et Élise Diamant, soit un couple, Berléand, qui est en fauteuil roulant, pourtant il n'a pas l'âge de Bouquet, et Evelyne Buil, et ils reçoivent à la campagne leur fille et leur gendre, qui reviennent d'Égypte, mais le gendre, c'est donc Elmosnino, arrive tout seul. Enfin, tout seul, il a un bouquet de fleurs, puisqu'il n'y a pas la femme. Alors le problème de cette pièce, c'est qu'on ne peut pas non plus trop la raconter. Disons que cette scène-là est rejouée 3 fois, avec chaque fois un dénouement différent, et que, comme toujours chez Thierry, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et... si notre ami Pierre Murat était là, il raconterait la fin. Mais là, évidemment, on est obligé de la laisser en suspens. Jacques ?
Écoutez, c'est une pièce qui m'a fait un curieux effet, parce que d'abord, il faut dire qu'elle est très bien jouée. Elle est bien montée. La mise en scène est très soignée, le décor est très beau, et encore une fois, les acteurs, Berléon, que j'aime pas toujours, est formidable, Evelyne Buhl, qui est une merveille, et El Mosnino est formidable. Bon. Et en même temps, alors, au début, grand plaisir, les premières minutes, je ris, je trouve ça rigolo, excentrique, enfin bon, bizarre, j'aime le climat, et puis petit à petit, c'est comme si on m'avait donné, vous savez, ces bonbons farce, un bonbon au poivre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment...
Ça, c'est fini depuis longtemps, hein.
Ça se fait encore, non, je vois que vous ne fréquentez pas les magasins de farce et attrape, on en trouve encore, mon cher Jérôme. Si, je suis formel. Bon, en attendant, tout à coup, vous vous retrouvez avec un goût dégoûtant, un goût dégueulasse dans la bouche.
Dégueulasse ?
Oui, parce que...
C'est pas vrai.
Mais non, parce que au fond, on rit de quelque chose de très cruel. On rit d'abord d'un infirme qu'on nous montre sur scène pendant tout le spectacle, un type en fauteuil roulant et qui ne s'en relèvera pas. Enfin bon, et on rit d'hallucinations, plus ou moins et de quelqu'un qui frôle la folie ou qui craint d'entrer dedans. Et petit à petit, ça me fait de moins en moins rire et je trouve que ça devient sinistre. Et je suis sorti de là dans un état de très grand malaise.
Armelle ?
Moi, pas du tout. Mais moi, c'est vrai que je réfléchis pas beaucoup.
Et
quand il y a sur un plateau quatre comédiens, parce que la petite Élise Diamant n'a pas grand-chose à faire, mais il faut le faire.
Mais elle porte bien son nom, Élise Diamant.
Evelyne Buhl, comme l'a dit Jacques, elle est tout le temps épatante. Berléand qui ne peut pas quitter sa chaise et qui doit donc tout exprimer par le visage et par des gestes très très petits, très mesurés, je l'ai trouvé mais extraordinaire. Et El Mosnino, c'est un spectacle à lui tout seul, tout ce qu'il fait est très fin, très subtil, même si c'est dans quelque chose qui est grossier, fondamentalement, mal élevé, méchant, qui peut mettre mal à l'aise si on réfléchit à ce qu'on voit. Mais moi, j'ai pris le spectacle avec simplement du plaisir de...
Mais la cruauté est dans toutes ses pièces, je vous rappelle.
C'est un vrai méchant, Sébastien Thierry.
Mais le mauvais goût, ça peut être drôle, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit volontaire.
Je comprends le sentiment de Jacques, mais moi, il ne m'a pas atteint parce que j'ai pris un tel plaisir de voir ces acteurs tellement, tellement fins dans quelque chose de surligné, en même temps d'énorme, que j'ai été ravie.
Gilles ?
Je trouve que nous encore une fois dans une convention.
Mais qu'est-ce que vous feriez sans moi
de la
rien. Mais c'est pas possible, il ne peut pas commencer une phrase sans dire.
Si le comique ne verrait pas se moquer de tout, alors là, c'est par nature irrespectueux. Alors effectivement,
mais
il est sur un fauteuil roulant.
Bon,
enfin, on n'a pas beaucoup de pitié pour le personnage sur un fauteuil roulant. Il n'est pas attachant, il est drôle, simplement, Berléan. C'est très bien. Non. C'est une pièce qui est vraiment très bien racontée parce qu'elle a son mystère qui est toujours le même et qui en même temps vous trouble quand même pendant toute la pièce. Ce qu'on comprend pas, c'est le rapport avec Ramsès II parce que il y en a pas finalement.
Il adore l'Égypte.
Oui, mais il y a le masque au départ.
Et puis il vient d'Égypte.
Oui, l'égyptologue. Mais par exemple, la mise en scène de Hillel fonctionne beaucoup sur Ramsès II avec des projections d'images des tombeaux. Les tombeaux égyptiens, ce qui est quand même un peu à côté de l'enjeu même de la pièce.
Non, c'est vrai.
Mais c'est tellement amusant, tellement drôle. Ces acteurs sont épatants. Enfin, écoutez, dans cette rentrée où la comédie est vraiment
quand je pense
bas de gamme,
que vous êtes difficile avec
ça c'est vraiment le haut de gamme. C'est vraiment très drôle.
Fabienne.
Moi, j'ai pas trouvé ça si drôle que ça. Je serais plutôt d'accord avec Jacques parce que je trouve que il est tellement méchant, Sébastien Thierry. Ça fait partie de son talent, mais il est d'une cruauté. Il manque d'empathie avec ses personnages. Il n'aime pas ses personnages. Il y a souvent un handicapé, d'ailleurs, dans ses spectacles. Momo,
c'était terrible.
C'était un sourd. Donc, son frère est sourd. Hein, donc, il connaît ça par cœur. Et c'est ça qui l'a rendu si bloqué par rapport à la vie. Parce que c'est un infirme. OK, c'est bien même qu'on monte des handicapés sur scène. Moi, je trouve ça formidable. Ils ont droit à être représentés sur scène. scène. Mais il le fait quand même coincé dans l'escalier, le pauvre handicapé. Et il ne peut plus bouger.
C'est très amusant.
C'est drôle, mais c'est terrible. Faire rire de ça,
c'est mécanique est très bien.
J'aimerais vous y voir. Tiens,
Elmosnino, qui est exceptionnel, il a la colique quand même. Il va aux chiottes toutes les deux minutes.
Parce qu'il revient d'Égypte, il est la tourista.
Oui, mais c'est...
Il n'y a pas la tourista en Égypte.
C'est un ressort. C'est la farce. C'est un ressort drôle. Mais c'est aussi un peu abject par rapport au personnage. Donc, moi, c'est ça qui me fascine à la fois et qui me maintient sur la défensive. Mais c'est bien cet état de déséquilibre qu'on a, le fait d'être choqué, un peu scandalisé. Mais moi, il y a quand même un reproche que je ferais à Sébastien Thierry, même si j'aime bien ce vertige-là, cette méchanceté qui me met mal à l'aise, c'est la fin. Il rate toujours sa fin, ses fins. Il n'y avait pas besoin de dénouer la pièce comme il le fait, de donner une explication. C'était pas
mais
utile.
C'est-à-dire,
il casse toute
même
la
pas
magie.
Sûr que ça soit la bonne fin.
Alors
quoi.
Je pense qu'il est temps de s'arrêter.
On s'arrête. On ne fait pas. Monsieur Murat.
Il fallait pas expliquer.
Allez, bonsoir Pierre. Ramsès II, Bouffe parisien, la nouvelle pièce de Sébastien Thierry. On va aller un peu plus vite parce que j'aimerais qu'on évoque encore rapidement la nouvelle, qui est une comédie de l'auteur à succès Éric Assous, mise en scène au Théâtre de Paris par Richard Berry, qui avait déjà mis en scène et joué Nos Femmes, la pièce précédente d'Assous. Et la nouvelle, c'est Mathilde Seigné, alias Mado, mère de deux filles, avec qui le personnage de Richard Berry, veuf, père de deux grands-fils, compte refaire sa vie, mais il faut annoncer la nouvelle aux enfants respectifs, surtout aux fils, pour lesquels une marâtre est une marâtre, sans compter, évidemment, ça n'arrange pas les choses, que Mado est enceinte. On voit exactement le film que déjà Richard Berry va en tirer. Je pense qu'il sera aussi mauvais que le précédent. Mais en tout cas, dites-moi, mais pas trop longuement, ce que vous en pensez de la nouvelle d'Éric Assous, Fabienne ?
Vous m'avez gardé la meilleure... Vous m'avez gardé la meilleure pièce. Non, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose et en même temps...
Vous parlez comme Macron, maintenant.
Éric Assous, tout n'est pas nul. Hein. C'est un auteur de boulevard. Moi, j'avais bien aimé Les Femmes. Je trouve qu'il a des mécaniques de comédie. Il sait ce que c'est que le théâtre de boulevard et connaît les ficelles. Là, c'est plutôt une comédie de mœurs, puisque ça raconte comment on peut refaire sa vie quand on a 60 ans et que c'est difficile.
C'est un téléphone sonne sur la famille recomposée. Hein.
C'est un peu mieux, quand même. Et la difficulté des enfants qui sont très sectaires, très exigeants et qu'il ne faut rien passer auprès des parents. Ce côté cruel des enfants face aux parents vieillissants, je trouve que c'est pas si mal foutu que ça. Mais Richard Berry n'a qu'un rôle dans la pièce. Même Mathilde Seigné, qui en plus a maigri, on ne la voit pas. Donc c'est terrible. Le rôle, c'est Richard Berry.
Il a beaucoup maigri.
Lui, il est formidable. Je trouve qu'il a une humanité. Il est sympathique. Il danse. Il est séduisant. Il est tout.
Donc, vous avez aimé,
mais il écrase tout le monde. Non, c'est tout petit. Mais moi, j'aime bien Richard Berry.
Je trouve que la pièce est bien écrite, bien faite, bien fichue. Elle est très bien jouée, notamment par Mathilde Seigné, que j'adore. Le problème, c'est que les personnages sont tous des crétins et des gens très bas.
Richard Berry.
Très bas, si, tous. Ou alors des idiots. Ben, parce que lui se comporte comme un idiot. Lui se comporte comme un idiot avec ses fils. Il est lâche, il est bon. Et le résultat, c'est qu'au bout d'un moment, moi, j'ai une sorte de fatigue à voir ses fils qui se conduisent d'une manière ignoble avec le père.
Ils sont pas gentils,
bon.
Ça c'est vrai.
Eh bien, au bout d'un moment, j'ai envie de les laisser dans leur problème. Bah, écoutez, heureusement, moi, je connais peu de gens aussi bas et aussi bêtes. Et j'ai pas envie de passer la soirée avec eux.
Gilles.
Je suis étonné que Jacques Nerson n'ait pas aimé, parce que ça a été écrit pour lui, c'est-à-dire que toutes les aspérités sont retirées. Tout ce qui pourrait être un peu choquant a été enlevé.
C'est
étonnant
de la part
d'Éric Assous, qui écrit des pièces justement sur le malaise en général, sur l'illusion conjugale, c'est une très bonne pièce, etc. Et là, tous les coups de théâtre qui doivent faire gêner dans sa relation sociale, dans son point de vue sur la vie, sont des coups de théâtre pitoyables. On a l'impression que c'est des petites histoires de rien du tout. C'est-à-dire, oui, ils ont 20 ans d'écart, oui, il l'a rencontré, mais il s'est rien passé de grave. Enfin, tout est affadi, bizarrement, par un auteur qui, habituellement, ne nous affadit pas les choses. C'est donc pour les familles et pour Jacques Nerson.
Armel.
Oui, c'est pour les familles, mais ça, les gens, ils...
Mais pourquoi les familles seraient idiotes?
Ils sont pas malheureux de voir des problèmes qu'ils connaissent. Alors évidemment, c'est pas très élaboré, c'est du premier degré, mais j'ai trouvé que c'était très bien joué, en particulier effectivement par Richard Berry et Mathilde Seigné, que j'ai trouvé magnifique.
Elle a pas drôle quand même. Hein.
Non, c'est vrai, c'est très misogyne.
Excusez-moi, je vous précipite un peu.
La belle-fille est horrible.
La nouvelle, c'est donc Eric Assou, c'est au Théâtre de Paris. J'y avais inscrit Tant qu'il y a de l'amour, une comédie d'un certain Bob Martet. Mise en scène par Anne Bourgeois, ça joue à la Michaudière avec Patrick Chesnay et Marie-Anne Chazelle qui forment donc un couple classique, hein, puisqu'ils sont mariés depuis 30 ans, monsieur à sa maîtresse, madame son amant. Et quand madame propose le divorce à monsieur, il refuse et elle demande à son amant, qui est le pharmacien, Laurent Gamelon, de l'aider à empoisonner son époux, un poison que par trois fois Chesnay va boire sans être incommodé. C'est vrai que sans Chesnay, j'aurais peut-être pas mis cette pièce au programme. Avec lui, je me demande ce qu'elle y fait encore. Dites-moi vite ce que vous en pensez, Gilles.
Oh bah, pour le texte, c'est le niveau qu'il y a niveau, quoi. Oh,
d'accord. Non, on peut aller vite.
Oh oui, c'est terrible. On a envie d'être voilà. Pas
bon,
là.
Fabienne.
C'est une idiotie.
Voilà.
C'est surtout une pièce paresseuse parce que trois fois il se passe la même chose au cours de la soirée. C'est
très. Quand on l'empoisonne.
Ben on ne sait pas. L'auteur ne nous donne même pas d'explication.
C'est un pharmacien qui l'empoisonne. Il meurt jamais.
On en rêve.
Et à la fin, vraiment, j'ai senti de la part d'Anne Bourgeois, la metteuse en scène, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas s'en dépêtrer. Et alors elle fait pleuvoir des confettis sur la scène.
Vous allez courir voir Tant qu'il y a de l'amour. C'est donc Patrick Chesnay et Marie-Anne Chazelle, enfin ce qu'il en reste, et c'est au Théâtre de la Michaudière. Allez, rapidement pour finir, au Théâtre Michel, le chanteur Tom Novembre retrouve la scène aux côtés de Christophe Malavoie dans Fausse Note, une pièce de Didier Caron, mise en scène par Didier Caron. Et Christophe Lutringer et Tom Novembre, c'est un chef qui dirige le Philharmonique de Genève. Et Christophe Malavoie, c'est un certain Léon Dinkel qui débarque dans sa loge en prétextant être son admirateur. Et on comprend très vite d'ailleurs que c'est une autre raison qui le pousse dans cette loge. Il faut aller les voir ou pas au Théâtre Michel, Jacques ?
J'ai l'impression que c'est une pièce que j'ai déjà vue 150 fois. Oui. Et je crois, sans vouloir être méchant, que c'est un sujet qui ne convient pas, qui est trop grave pour Didier Caron. C'est pas un sujet pour lui. Il devrait pas s'aventurer là-dedans. C'est une thèse entre vengeance et pardon. Enfin, c'est vraiment à fuir.
Bien. Fabienne ?
Finalement, il y a une thématique, hein, ce soir, c'est les pères et les fils, puisqu'on l'a retrouvé dans Les Fourberies de Scapin, dans La Nouvelle, et là, c'est encore une histoire.
J'adore votre manière de faire des synthèses d'émission.
Hein. Et là, c'est des fils qui essayent de venger ou de pardonner ou de réconcilier leurs pères qui ont été des victimes et des bourreaux. Ça se regarde. Moi, j'ai trouvé Christophe Malavoie tout à fait remarquable.
Tout à fait remarquable ?
Oui. Ah oui, moi, il m'a bluffé, il m'a bluffé. Tom Novembre, un peu mal à l'aise.
Non, vous aimez bien Richard Berry, Malavoie, je remarque que vous aimez les vrais hommes, hein. Vous aimez les vrais hommes, hein.
Oui, les vrais.
Bon.
Non, c'est pas un chef-d'œuvre.
Armel.
J'ai le même sentiment que Jacques Nerson, c'est-à-dire que c'est un thème qu'on a vu écrit, souvent repris... selon des variations plus ou moins brillantes. Là, c'est un tout petit peu laborieux. Malavoie, je l'ai trouvé très, très bien.
Aucun de vous ne parle de Tom
bien.
Novembre. Hein,
mais Tom Novembre, j'ai trouvé qu'il était mal à l'aise et qu'il n'était pas assez dirigé. J'ai vu au tout début des représentations.
Appliqué un peu.
Voilà. Appliqué. Donc, c'est compliqué quand on est deux comme ça sur scène avec pas beaucoup de grains à moudre profonds. C'est raconté, mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'intériorité puissante pour les acteurs.
Gilles, qu'est-ce que vous allez répondre à Jacques, là, cette fois ?
Moi, j'aime assez ça. Je trouve ça, ça bien. Non, je trouve ça bien conduit. Je trouve que Didier Caron a écrit la pièce en suivant sa ligne avec rigueur et que Nous, spectateurs, on suit cette ligne-là jusqu'au bout, qu'elle est,
ah ben nous,
est très bien tenue.
Nous, spectateurs, c'est un nous bien singulier.
C'est vrai que c'est moins profond que c'était l'histoire de Ferdinand Anglère.
Qui n'était pas profonde, là.
Non, justement, mais franchement. On y pense un peu, puisque
il s'agit
bien sûr d'un chef d'orchestre dont l'histoire est liée un peu à l'histoire
des nazis. Hein.
Mais c'est assez bien fait. Moi, je suis aussi d'accord avec Fabienne et Armel sur Malavoie, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et qui est vraiment très, très nuancé, très bien. Et puis alors, Tom Novembre, il a moins de possibilités. Il a une palette de jeux bien inférieure, mais il a une gueule, il a une présence. Et moi, j'étais content de le voir aussi.
Eh bien, c'est Fausses Notes de Didier Caron, et c'est au Théâtre Michel. Allez, on a le temps de conseiller des pièces, des livres, des restaurants, des boîtes de nuit, ce que vous voulez, Jacques.
Eh bien, je conseillerais une pièce de Sacha Guitry, Faisons un rêve, qui se donne au Théâtre de la Madeleine, montée par Nicolas Briançon, qui la joue avec Éric Logérias et Marie-Julie Baupe. Et c'est un très joli spectacle où... Briançon réussit à ne pas reprendre les intonations de Guitry, mais en même temps, ça file très bien. C'est une des plus belles déclarations d'amour qui ait jamais été faite dans la littérature théâtrale. C'est vraiment très agréable à voir. Très joli divertissement.
Guitry, Théâtre de la Madeleine.
Théâtre de la Madeleine, et je crois que ça se donne à 19h.
À 19h. Le conseil de Fabienne.
Moi, ça sera La vie est un songe de Calderon, mis en scène par Clément Poiret, qui est maintenant le directeur du Théâtre de la Tempête, où il a succédé à Philippe Adrien. Alors, La vie est un songe, c'est une pièce baroque en diable, qui date de 1636.
Qui demande normalement beaucoup de moyens, hein.
Beaucoup de moyens. Et là, c'est l'histoire d'un père qui enferme son fils parce qu'il a vu dans les astres que le fils allait se révéler un monstre. Forcément, le fils, enfermé pendant des années, va être un monstre. Et puis, il va trouver la rédemption. Donc, c'est une histoire magique, pleine de sacré. Et c'est joué dans un climat fantastique. C'est un acteur noir qui joue le prince Sigismond. C'est Makita Samba. Et il est magnifique, cet acteur noir.
Encore un homme qui vous a plu.
Ouais, il faut le dire, parce qu'il transcende toute la folie du texte et il donne une épaisseur.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Il est magnifique. Et le spectacle est vraiment très beau.
Mon conseil, c'est un livre, mais c'est presque un beau livre, passionnant. C'est le Festival mondial du théâtre de Nancy, une utopie théâtrale 1963-1983 de Jean-Pierre Thibaudat. Ça a paru aux Solitaires intempestifs. Et c'est la formidable histoire, il faut dire, certains l'ont oublié, de ce festival, créé par Jack Lang, où furent découverts notamment Bob Wilson, Pina Bausch, Cantor, Grotowski, le Brendan Puppet, un roman, donc une sorte de fresque, une épopée, qui montre que, quand même, le père Lang, il a fait des belles choses, et puis que ce livre-là, de Jean-Pierre Thibaudat, le raconte de manière absolument passionnelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce livre, mais j'ai trouvé ça très bien. Le conseil d'Armel.
Alors, un spectacle venu d'Avignon qu'on avait vu au Chêne Noir et qui s'installe au Tristan Bernard, qui s'appelle Mon Ange. C'est un texte d'un Britannique qui s'appelle Henry Naylor, qui s'est inspiré de l'histoire vraie d'une jeune Kurde de Kobané. Et c'est joué par une jeune femme absolument exceptionnelle qui commence à faire pas mal de cinéma, qui s'appelle Lina El Arabi, mise en scène par Jérémy Lippmann. C'est un monologue saisissant. Et puis je voudrais dire retourner au De Jazé, où Jean Bouquin a donné les clés de la saison à Jean-Louis Martinelli, qui invite beaucoup de spectacles. Et vraiment, allez-y, parce que c'est le dernier théâtre du boulevard du crime. Il faut qu'il vive. Et là, il va vivre cette année avec tout un festival de spectacles intéressants.
Excusez-moi, mais l'émission se termine, Gilles.
Je vais quand même en donner deux. La leçon de danse au théâtre de l'œuvre que joue Éric Métayer et André Abescon, qui est une leçon d'humanité merveilleuse entre deux personnages blessés, c'est très émouvant. Et puis au théâtre Héberto, Les Jumeaux Vénitiens de Goldoni, mis en scène par Jean-Luc Benoît avec Maxime Daboville. Et alors Jean-Luc Benoît, c'est lui qui avait monté Scapin à la Comédie Française il y a 20 ans. Et je peux vous dire que lui, il s'est monté la comédie, c'est formidable, à Héberto.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, France Inter. .fr. Merci Armel Elio, Fabienne Pascot, Jacques Nerson et Gilles Costaz pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. avec la collaboration de Lysiane Sellam et ce soir au Charles Trenet à la technique, et je les remercie. Fabien Capel, Philippe Thibault, Éric Boissel, la réalisation était signée David Jakubowiez. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, c'est le 19 octobre. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.